je les compte pas, par l'Espace Mendès France et les écoles doctorales, sciences humaines particulièrement, langage, lettres, etc. Donc représentée ici par Luce Toussaint, une des directrices. Voilà, c'est un grand plaisir ce soir de recevoir Claudine Cohen, que j'ai déjà rencontrée lors des colloques d'histoire des sciences à Paris, vous êtes historienne des sciences, vous faites partie des gens que je n'ai pas encore invités ici, alors il était temps. Hein, donc la production de votre ouvrage a été un bon prétexte. Donc vous êtes spécialiste de l'histoire et de l'épistémologie des sciences de la préhistoire et vous êtes directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et à l'École pratique des hautes études, section des sciences de la vie et de la terre. Vous êtes l'auteur notamment de La femme des origines, images de la femme dans la préhistoire occidentale, Paris Belin Cher 2003, donc un bel ouvrage illustré que vous pourrez acheter à Noël pour l'offrir à votre famille. Donc réédition 2013, qui est très important, et Femmes de la préhistoire Paris Belin, parution le 30 septembre 2016. Et nous sommes donc up to date à Poitiers, puisque nous l'avons déjà acquis. Voilà, donc Femmes de la préhistoire, et le titre de votre conférence est un très beau titre, L'homme préhistorique était aussi une femme. On vous écoute avec plaisir, Madame Cohen, et encore merci d'être venue chez nous.
Bonjour et merci.
Excusez-moi, la violence en couleur, c'est pas ici?
Non.
Ah, je suis désolée, non, je ne parle pas de la couleur.
Alors vous faites moitié-moitié, on garde moitié de la du rang. Est-ce
que vous avez dit qu'il y avait une violence sur la couleur?
Non,
c'est le musée
Saint-Paul. Aïe, aïe, aïe. Il se passe beaucoup de choses à Poitiers.
Oui, il se passe
beaucoup de choses en très peu de temps, vous voyez. Bien, bonjour à tous et merci à Madame Bonnefoy de ce qu'elle a dit pour introduire cette communication et de m'avoir invitée. J'entends parler depuis longtemps de l'espace Mendès France. Je crois que la première fois que j'en ai entendu parler, c'était par Michel Brunet, le paléontologue qui était à Poitiers pendant longtemps. Et je crois qu'il était en rapport avec vous.
Il était président de l'espace Mendès France.
Voilà. Donc, il y a d'éminents scientifiques qui sont passés par ici. Et je suis très... très contente de découvrir ce lieu et de vous présenter un peu mes travaux. Alors, Madame Bonnefoy vous a bien dit qu'il y avait en fait deux étapes, en quelque sorte, dans mon travail. La première, c'était ce travail que j'ai fait à partir de 2000, et qui a été publié en 2004, je crois, 2003, pardon. Et qui ouvrait vraiment un sujet qui n'avait pas été beaucoup fréquenté en France. Et je me souviens que c'était à l'occasion de, vous savez, l'année 2000, il y avait une conférence par jour qui avait été organisée. J'avais fait une conférence là-dessus, et tout le monde m'était tombé dessus en me disant, oh là là, les télévisions, les radios, il fallait parler des femmes, comme si c'était un scoop absolu. Alors qu'au fond, aux États-Unis, ça fait déjà 40 ans qu'on s'intéresse à la place des femmes dans la préhistoire. Donc j'avais fait ce livre, qui était un livre plutôt d'histoire des sciences, hein, puisque c'est un peu une des casquettes que j'ai, d'histoire et d'épistémologie, d'histoire critique de ce qui avait pu se dire et même se taire sur les femmes, puisqu'on n'en avait pas beaucoup parlé. Et quand on en avait parlé, c'était souvent à coup de stéréotypes, d'idées reçues, de préjugés, etc. Donc je m'étais efforcée de critiquer, et c'est une grande part du livre, tout cet ensemble de pensées ou de non-pensées qui avaient eu lieu pendant 150 ans, depuis l'origine de la préhistoire comme science. Et puis, à la faveur du fait que mon éditeur a réédité mon livre plusieurs fois sans me demander de l'actualiser, je me suis décidée à faire un autre livre et je me suis rendu compte qu'en fait, en 15 ans, 16 ans, les choses avaient beaucoup bougé. Alors, je ne sais pas si c'est mon travail qui les a fait bouger ou d'autres choses, certainement d'autres choses aussi, mais il se trouve qu'énormément de choses ont changé dans la perception des femmes, dans ce qu'on appelle aujourd'hui la perception du genre, et dans l'approche d'une place possible des femmes dans les sociétés d'aujourd'hui, mais aussi dans les sociétés de la préhistoire. Et donc j'ai réécrit un autre livre, je reprends quelques éléments du premier, mais pas beaucoup, et je me suis un peu aventurée à moi-même, recueillir le savoir scientifique et à essayer de le synthétiser. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur les femmes ? Donc, si vous voulez, c'est une autre approche que celle que j'avais cultivée dans le premier livre et qui est en quelque sorte complémentaire. Voilà. Donc, je dis, c'est la petite sœur un petit peu du livre. Et puis, c'est un livre où il n'y a pas d'image, c'est un livre de texte. Voilà. Donc, voilà ces travaux que j'ai faits. Et cette phrase « L'homme préhistorique était aussi une femme » commençait donc le livre que j'avais écrit, j'avais publié en 2003. Et je le reprends ici. Et pour revenir un petit peu à ce que j'avais pu dire à ce moment-là, il me semble qu'il est très important d'abord d'explorer et de critiquer ce que j'appelle les stéréotypes. Vous savez, aujourd'hui, dans les écoles, on a les professeurs des écoles sont encouragés à essayer de démolir les stéréotypes du genre. La fille en robe rose, le petit garçon qui joue avec les voitures, etc. Bon. Et je pense que c'est très salutaire de le faire, d'avoir une idée un peu plus large et un peu plus diverse des possibilités du garçon et de la fille, de l'homme et de la femme. C'est très important pour l'épanouissement de nos sociétés et pour la tolérance nécessaire dans le cadre de nos sociétés. Mais c'est aussi important pour ce qui concerne la préhistoire. Et d'ailleurs, la préhistoire a souvent été une sorte de reflet du présent. Très souvent, on voit que les préhistoriens ont pensé certaines choses de la préhistoire, peut-être pas tout, mais certaines choses avec les lunettes du présent, avec ce qu'ils voyaient autour d'eux. Et donc, surtout, d'ailleurs, lorsqu'il y avait très peu de choses. C'est vrai que sur les femmes, ils ont souvent dit qu'il n'y avait presque rien, qu'il n'y avait rien d'identifiable, et que donc, on pouvait faire des hypothèses un peu vagues. Et ces hypothèses, si on regarde de près, on s'aperçoit qu'elles reflètent pas mal des idées reçues, les cadres bibliques et la tradition judéo-chrétienne, l'image de la mère, Marie, ou encore l'image de l'Ève tentatrice, la femme séductrice, ou encore l'idéologie victorienne, parce que ces sciences se sont formées au XIXe siècle. Vous savez que la préhistoire, officiellement, a commencé dans les années 1850. Et donc, la deuxième moitié du XIXe siècle est vraiment le moment où on commence à penser ces sociétés du passé préhistorique. Et très souvent, je vous montrerai des images, ce qu'on voit, c'est un petit peu le reflet de ce qu'étaient les familles, les sociétés victoriennes, avec la femme, avec le mari, les enfants, etc. Donc, on plaque un peu sur la préhistoire des choses du présent. Tout simplement, parce que la préhistoire est un savoir extrêmement lacunaire. Il y a très peu de choses. Pour ceux qui s'intéressent, et je vois qu'il y a une belle revue sur l'archéologie ici, vous voyez, on voit des morceaux. Et encore, là, ce sont des terres cuites, ce n'est pas du paléolithique le plus ancien. Mais ce sont des fragments, ce sont des morceaux, ce sont des petits bouts, et il faut essayer de les agencer. Avec ça, il faut faire un vase, et au-delà du vase, il faut reconstruire toute une société qui l'a utilisé. Et donc, on a affaire à très peu de choses qui permettent mal d'identifier les acteurs. Et de ce fait, on est conduit à inventer, bien sûr, à faire des hypothèses. C'est l'invention. L'hypothèse est une forme aussi d'invention scientifique. Mais parfois aussi à fantasmer un petit peu. Donc, l'idéologie victorienne, et puis parmi les idéologies qui ont pas mal habité ces personnages de femmes préhistoriques, il y a des choses qui intéressaient beaucoup les gens au XIXe siècle, et qui les intéressent encore beaucoup aujourd'hui, c'est tout ce qui concerne l'érotisme. Alors, à l'époque, on voit souvent des femmes déshabillées, violées, etc. Et c'est un peu... il me semble une réaction au puritanisme de ces sociétés, ces femmes très couvertes des sociétés victoriennes, mais c'est aussi peut-être parce que le XIXe siècle, la fin du XIXe siècle et le début du XXe, est le moment où on découvre d'autres profondeurs, les profondeurs de la préhistoire bien sûr, mais aussi les profondeurs de l'inconscient, avec tout le jeu des pulsions, de l'érotisme caché et du désir qu'a dévoilé Freud. Et donc il y a cette espèce de rencontre qui finalement parvient à faire de la femme préhistorique une sorte d'objet fantasmatique de toutes sortes de débordements sexuels et érotiques. Donc voilà les stéréotypes un peu classiques de la femme préhistorique. Voilà par exemple une image de 1870, et vous voyez la femme assise, dépoitraillée, habillée de haillons assez érotiques en fait, voilà, avec le regard un peu voilà, par en dessous, borné, et l'homme debout, alors beaucoup plus habillé, porteur d'un instrument, d'une hache, bon, et regardant vers le lointain. En général, la femme regarde vers le bas et l'homme regarde vers le lointain parce que c'est lui qui est porteur d'avenir, alors que la femme, elle est porteuse de répétition, hein, de la répétition du même. Alors voilà, à travers les enfants et la reproduction. Hein. Voilà deux images complètement fantasmatiques, parce que jamais la préhistoire ne pourra être pensée de cette façon. Hein. L'homme chasseur, donc encore l'homme primitif de 1870, et l'homme artiste. Et vous voyez que là, il n'y a pas du tout de femme. Hein. La légende dit les Raphaël et les Michel-Ange de la préhistoire. Voilà. Alors à l'époque, on n'avait pas encore accepté les grottes ornées, mais il y a la peinture, la gravure, la sculpture qui sont représentées par ces jeunes éphèbes fort beaux et qui sont tous des mâles parfaitement reconnaissables. Donc les hommes créent, les hommes sont actifs, les hommes chassent, les hommes pourvoient à la survie. Et puis voilà les femmes qui sont voilà, cloîtrées au fond de la caverne, au coin du feu, portant les enfants. Et toujours le regard tourné vers le bas, assise, tandis que l'homme ici, vous voyez, il est là, parti au fond, là. Je ne sais pas s'il s'en va ou s'il revient, mais en tout cas, c'est l'homme des lointains. De même ici, vous voyez toujours ce regard qui va loin, et la femme encombrée d'enfants à sa mamelle. Voilà. Donc bon. Et puis donc les thèmes érotiques dont je vous parlais. Alors il y a toute une iconographie, même de Roni Aîné qui a fait La Guerre du Feu, qui est pourtant un livre qu'on met entre toutes les mains. Mais il y a un autre livre qui s'appelle Nomaille, Amour lacustre, qui est très joliment illustré de gravures un peu lestes, de femmes un peu enfermées dans des espèces de cordes. Enfin, il y a un côté très très lascif. Et encore celle-ci, qui est aussi une illustration de Roni Aîné, qui est censée illustrer la condition féminine au paléolithique, avec cette image de la femme emmenée, tirée par les cheveux, hein, ou par les bras, ici, au fond de la caverne, pour être violée. Et je crois que le texte qui fait la légende de cette image, c'est si une femme, dans ses promenades, croisait un homme, la malheureuse était fécondée sur place. Donc, vous voyez, c'est une espèce de mythologie de la sexualité violente, hein, du viol, qui est donc une sorte de poncif et accepté par des auteurs. Bon, Roni Aîné est évidemment un romancier, mais c'est quelqu'un aussi qui a ouvert beaucoup de générations au savoir des sciences de la préhistoire. Donc, vous voyez un peu tous ces poncifs. Le deuxième point dans les stéréotypes, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la prétendue invisibilité des femmes préhistoriques. Elles sont invisibles. Pourquoi sont-elles invisibles? Bon, les femmes sont toujours invisibles, de toute façon. Dans la société victorienne, ce n'est pas elles qu'on voit. Hein, c'est les hommes qui sont actifs et qui font les choses. Mais dans la préhistoire, c'est encore pire, parce qu'archéologiquement, on ne peut pas les reconnaître. Hein. On ne peut pas les reconnaître parce qu'il est très difficile d'assigner à tel objet, comme vous avez vu là, hein, des bouts de cailloux, même des ossements parfois, une identité féminine ou pas. Donc, alors, ce qu'on peut répondre à cela, c'est qu'évidemment, les femmes des temps préhistoriques étaient aussi nombreuses que les hommes, et même donc comme aujourd'hui, hein, il y a une moitié-moitié, mais c'est vrai qu'il est difficile de les reconnaître parmi les vestiges de ce passé. Alors, attendez, est-ce que ça c'est parti? Le truc est parti, là, accident. Ça va, vous voyez? C'est bon? Bah, il faut le visser, je crois, pour que ça ne s'en aille pas. Alors, voilà. Donc, je termine. Quelle preuve archéologique Quels indices paléontologiques? Paléontologiques, vous comprenez ce que ça veut dire, hein? Quels indices osseux, quels restes, quels vestiges de ces femmes connaissons-nous? Quelles preuves archéologiques, quels objets nous permettent de les reconnaître dans leur rôle de technicienne ou de ou voire même d'artiste éventuellement et dans leur représentation. Et donc, quels pouvaient être les rôles des femmes dans ces sociétés de la préhistoire? Alors, évidemment, aujourd'hui, je vais passer ça parce que je reviendrai là-dessus. Je commence par les indices paléontologiques. Indice paléontologique, ça veut dire le fait de reconnaître une femme d'un homme. Et, bon, alors... Ça a l'air très simple comme ça. Vous avez entendu parler de Lucie. Hein, et voilà, Lucie reconstituée. Mais voyez, au départ, Lucie, c'est ça. Hein, c'est des fragments osseux. Hein, il n'y a même pas de crâne. Bon, il y en a beaucoup de petits morceaux. Mais c'est un petit peu une gageure d'identifier un personnage de sexe féminin dès le premier jour, d'ailleurs. Dès qu'ils l'ont trouvé, ils l'ont appelé Lucie. Hein, et je pense que cette dénomination était plus liée à des éléments culturels qu'à une vraie reconnaissance anatomique de ce fossile. Hein. C'est un petit peu un pari que de l'avoir nommée Lucie. Et voilà une des reconstitutions, une très jolie reconstitution de John Birch au musée de Cleveland, une reconstitution récente. Alors, l'anatomie féminine... Comment peut-elle se reconnaître dans les ossements fossiles? Elle peut se reconnaître par la gracilité du squelette, hein, par le fait que les ossements sont fins, plus fins que ceux des mâles. Hein. Alors pour Lucie, c'était compliqué, parce que c'était le seul, le plus ancien et l'unique squelette qu'on connaissait. Donc dire que c'était plus gracile que quelque chose, c'était difficile. D'autre part, le bassin. Hein. Il y a des éléments dans l'anatomie du bassin qui permettent de reconnaître, surtout pour les subactuelle ou pour l'époque la plus récente du paléolithique, une femme, parce que les os du bassin s'écartent au moment de l'accouchement, en rapport avec la grosseur de la tête de l'enfant. Alors, pour Lucie, d'abord le bassin était en miettes, et d'autre part, Lucie a un tout petit crâne. Hein, donc l'idée de l'écartement, etc., reste assez discutable. Et donc, il est possible, aux périodes beaucoup plus récentes, par exemple au néolithique, hein, d'étudier des différences anatomiques, parce qu'on a plusieurs squelettes, on en a beaucoup plus, par exemple dans un cimetière néolithique, et on peut là vraiment identifier des hommes et des femmes. Encore une fois, ce sont des choses assez difficiles, et on voit au cours de l'histoire de la paléanthropologie que beaucoup de fossiles ont changé de sexe. Mrs. Pleas, c'était aussi une découverte africaine, en Afrique du Sud, en 1947. Bon, on l'a appelée Mrs. Pleas, Plesianthropus africanus, et en fait, c'est un homme. Hein, aujourd'hui, on a reconnu par d'autres traits que c'est un homme. Bon, Lucie, je vous en ai parlé. Alors, il y a des gens encore aujourd'hui qui disent peut-être qu'il faut l'appeler Lucien. Hein, ça reste discuté. Et le bassin... reconstitué de Lucie semble ne pas pouvoir déterminer avec certitude son appartenance à une femme. Alors pour les femmes de Néandertal, c'est un peu pareil, d'autant plus que les femmes de Néandertal étaient extrêmement robustes. Alors on a trouvé des sépultures où on voit une femme qui possède encore dans son ventre, enfin dans son bassin, des restes d'un enfant qui n'est pas né. Bon, là, c'est une preuve absolue qu'il s'agit d'une femme. Et on s'aperçoit, par l'analyse de ces sépultures, que les femmes de Néandertal, il y avait un très faible dimorphisme. Elles étaient très costauds, très robustes. Et donc, les découvertes de femmes de Néandertal restent aussi sujettes à discussion. Et par exemple, la femme de l'Aquina a changé 5 fois de sexe. Alors, si vous allez au musée de l'Homme, à Paris, vous verrez, il y a la femme de l'Aquina. Il y a... Attendez. Il y a un truc qui a bougé, là. Enfin... Attendez, je vais vous le retrouver. Excusez-moi. Voilà la femme de l'Aquina, une reconstitution. Bon, elle n'est pas très belle. Hein. Elle n'est pas très jolie. Mais si vous allez au musée de l'homme, vous verrez qu'elle est, que c'est plus une femme, on lui a enlevé la tignasse. Et c'est un monsieur chauve. C'est la même sculpture. C'est un peu ridicule. C'est vraiment des spéculations du début du XXe siècle. Mais vous voyez que, bon, à partir d'un squelette comme ça, on fait un peu, on peut faire toutes sortes d'hypothèses. Et voilà, par exemple, la femme de Saint-Césaire. Donc, à Saint-Césaire, si vous y allez dans le sud-ouest, il y a un très beau musée autour de cette découverte, qui est une découverte relativement récente, 1980, qui a été identifiée comme une femme, donc avec un squelette relativement gracile, pour un néandertalien, qui a été reconstitué de mille manières. Il y a eu un film, il y a eu toutes sortes de choses faites autour de ça. Alors, il y a maintenant des gens qui disent que c'est peut-être un homme. Mais bon. Il y a une hésitation possible. Et voilà la femme de Cro-Magnon. Hein. On parle de l'homme de Cro-Magnon. Vous avez tous entendu parler de l'homme de Cro-Magnon. Vous n'avez pas entendu parler de la femme de Cro-Magnon. Alors, la femme de Cro-Magnon, elle était parmi les 5 fossiles qu'on a trouvés dans l'abri de Cro-Magnon aux Aisies. Mais personne n'en a parlé à l'époque. La seule chose qu'on a dit, c'est qu'elle avait reçu un coup sur la tête qui avait produit sa mort. Hein, qu'elle avait été, donc, il y a un trou là. Qui était une blessure qu'il avait peut-être assommé, mais peut-être tué. Mais en tout cas, qu'elle avait été victime de violences graves, et que d'ailleurs elle était enceinte, et que c'était une femme qui avait peut-être été violée, etc. Enfin, il y a tout un roman. Et finalement, on s'est aperçu récemment que la blessure n'était pas du tout paléolithique, elle est moderne. C'est-à-dire qu'elle a été faite au moment du dégagement du fossile. Et donc, voilà, tous les fantasmes aussi qui se développent autour de la violence. Sur les femmes, qui est un problème réel, mais qui là s'est trouvé en quelque sorte plaqué sur cette pauvre femme de Cro-Magnon. Bon. Donc vous voyez que les indices paléontologiques, ils existent, ils sont parfois, comme je l'ai dit tout à l'heure, irréfutables, comme cette femme qu'on trouve avec un enfant en elle encore. Mais parfois, il y a des discussions autour de cette affaire. Alors maintenant, grâce à l'ADN, on peut arriver à identifier, si on a l'ADN en très très bon état, hein, un personnage de sexe féminin. C'est le cas, par exemple, pour le fameux petit morceau de doigt de l'homininé de Denisova, hein, qu'on a trouvé en Russie, tout petit fragment qu'on a donné aux biologistes à étudier, et ils ont reconnu que c'était une femme, entre autres choses. Ils ont reconnu plein de choses, ils en ont fait même presque une nouvelle espèce. Mais enfin, c'est une femme parce que, génétiquement, donc elle a les caractéristiques... génétique d'une femme. Bon. Alors ça, c'est peut-être une nouvelle voie pour identifier des personnages féminins, si tant est qu'on arrive à extraire de l'ADN de nombreux fossiles, ce qui n'est pas encore le cas. Alors, deuxième ensemble de preuves, en quelque sorte, qui pourrait nourrir cette réflexion sur les femmes, sont évidemment les preuves archéologiques. Les preuves archéologiques, c'est, contrairement aux preuves paléontologiques, celles qui sont qui viennent des objets que l'on trouve sur les terrains de fouilles, que ce soit un sol d'habitat ou que ce soit un abri de plein air, etc. Alors, qu'est-ce qu'on trouve et qui pourrait témoigner de l'activité des femmes au paléolithique? Alors, on trouve des morceaux de cailloux taillés et en particulier, il y a toute une réflexion qui a été menée sur le fait que les préhistoriens ont parfois le fétichisme du bel objet. Hein, c'est-à-dire que pour eux, un beau biface, bien taillé, magnifique, c'est une espèce de trophée, n'est-ce pas, qu'on met dans un musée. Et ça, c'est une œuvre masculine. Alors, je ne dis pas que les femmes n'étaient pas capables de faire des belles choses, mais ce qu'on peut dire aussi, et ce qu'on a remarqué, c'est que parfois, très souvent, sur les sols d'habitat, par exemple, on trouve tout un tas de petits cailloux qui n'intéressent personne. Et si on se met à les étudier, par exemple, grâce à la tracéologie qui permet de distinguer les traces de fabrication et d'utilisation, on s'aperçoit que ces objets ont été utilisés pour des tâches quotidiennes, raclage de bois, épluchure, découpage de viande, etc. Et donc, on peut imaginer si... On dit, comme on le dit banalement, que les femmes étaient plus sédentaires que les hommes, comme on a vu sur ces images. Si on accepte cette hypothèse, qui est, comme on le verra, qui peut être contestée, eh bien, à tout le moins, elles étaient quand même en mesure de fabriquer des petits outils, sur éclat pour leur usage personnel, pas forcément des chefs-d'œuvre, mais des objets d'usage quotidien. Donc ça, c'est une sorte de trace possible. Et d'autre part, vous savez qu'aujourd'hui, il y a tout un pan de l'archéologie préhistorique qui consiste dans l'expérimentation et le fait de reproduire les outils et de reproduire les gestes qui conduisent à la fabrication de ces outils. Eh bien, on voit très souvent, vous avez certainement vu des films ou des images d'hommes en train de tailler un biface ou une lame, etc., avec un autre silex. Eh bien, l'expérimentation prouve que les femmes, autant que les hommes, sont capables de le faire. Que ces coups qui sont portés sur les morceaux de silex pour les façonner ne demandent pas une force énorme, mais demandent plutôt de l'habileté, plutôt de l'intelligence et de l'habileté, ce que les femmes pouvaient posséder tout autant que les hommes. Là, il y a aussi tout un ensemble de preuves qui ont été avancées autour de la question des fibres. Et vous savez que dans la plupart des sociétés traditionnelles et des sociétés de chasseurs-cueilleurs, les femmes s'occupent de la cueillette, s'occupent des plantes, s'occupent des fibres. Et donc, des preuves ont été recueillies récemment, enfin plus ou moins récemment, de ce travail des fibres. On a même trouvé vraiment des vestiges archéologiques voilà par exemple. Une très belle photo qui a été faite par la préhistorienne Olga Soffer en 1997. Elle a trouvé par hasard une plaque d'argile, parce que dans ces sociétés moraves d'il y a 30 000 ans, 29 000 à 25 000 ans, eh bien, on utilisait déjà la terre, on utilisait l'argile cuite, et on a ici une impression de quelque chose sur l'argile. Et ce quelque chose, si on le regarde de près, avec les yeux d'un spécialiste, c'est une impression de textile. On a trouvé des impressions de panier, des impressions de filet. Et donc, il y a tout un ensemble de techniques qui ont pu être réalisées à ces époques très anciennes de la préhistoire. On est à 30 000 ans, on est au début du paléolithique supérieur. Et qui pourraient faire penser que les femmes ont joué un rôle dans le façonnement des fibres, dans l'utilisation ces produits dérivés des plantes, végétaux, pour faire toutes sortes d'objets, des vêtements, des paniers, des filets, etc. Donc, alors voilà quelques outils, je vous parlais tout à l'heure des outils paléolithiques, dont je vous disais qu'ils étaient généralement identifiés comme étant fabriqués et utilisés par des hommes, mais après tout, il n'y a pas de raison de penser que les femmes ne les ont pas aussi fabriqués et utilisés. Donc ici, je parle des fibres, des vêtements tissés, des objets de parure et de la possibilité pour les femmes d'avoir non seulement fabriqué, mais aussi utilisé ces objets. Et voilà par exemple une image ici, une statuette, une photo d'une statuette d'un site russe de Kastionki, qui date d'à peu près 25 000 ans avant le présent. Et sur ce site russe, vous savez, c'est ces sites qui étaient dans la plaine russe, dans la vallée du Don, où on a trouvé des habitations très élaborées, recouvertes de... probablement de peau de mammouth avec une sorte d'architecture en os, en mandibule et en défense de mammouth. Le mammouth était bon à tout faire là-bas. Et donc, dans ces habitations, on a trouvé parfois des statuettes comme celle-ci. Celle-ci est en calcaire. Et on voit, bon, elles ont toutes sortes de caractéristiques très intéressantes, mais en particulier... elles ont cette chose-là qui ressemble à une sorte de... Alors, de colliers, de ceintures, de soutiens-gorge, d'objets pour porter peut-être les enfants, d'instruments de portage, hein, mais en tout cas qui traduit de façon extrêmement fine la dextérité et l'habileté de ceux qui ont fait ces objets. Hein. Et donc, ce que dit Olga Soffer, qui encore une fois a étudié ces techniques, c'est que si on s'est donné la peine de représenter aussi finement et avec autant de précision le résultat de ces techniques, c'est qu'elles étaient certainement valorisées. Hein, et que le fait et de les représenter et de les porter pour les femmes était aussi peut-être un signe qu'elles avaient la capacité de manipuler et de fabriquer des objets à partir de ces fibres. Voilà, donc il y a tout un ensemble de réflexions aujourd'hui qui se déploie autour de cette question du textile, des fibres et de la sparterie, de la vannerie, etc., au paléolithique et très anciennement au paléolithique. C'est une chose nouvelle qu'on ne connaissait pas. Justement, je vous parlais de la permanence des traces. Hein. On n'avait pas ces traces et elles commencent à surgir avec des méthodes photographiques plus élaborées, mais aussi par le fait même qu'on les cherche, hein, par le fait même qu'on essaye de distinguer les choses. Et le regard qui cherche, parfois, trouve. Voilà. Alors, un autre ensemble d'indices très importants, dont on ne parle pas souvent, quand on parle de l'invisibilité des femmes dans la préhistoire, bien on nommait qu'il y a des femmes visibles de la préhistoire, ne serait-ce que sous la forme de représentations. Représentations iconiques, hein, représentations peintes, gravées, sculptées, et de statuettes qui sont assez abondantes à l'époque du paléolithique supérieur. Évidemment, c'est quelque chose de relativement récent dans l'histoire humaine. Hein. On a quelques figurations très hypothétiques il y a 300 ou 400 000 ans, hein, mais elles restent un peu discutées. Mais en tout cas, c'est à partir du début du paléolithique supérieur, de l'arrivée d'Homo sapiens en Europe occidentale, qu'on va trouver ces figurations féminines extraordinaires, hein, qui ont toutes la particularité, en tout cas à cette époque-là du Gravettien, d'avoir des formes extrêmement généreuses, hein, opulentes, et puis d'avoir leur traits, leur caractère sexuel très hypertrophié en quelque sorte, très marqué. Hein. On voit la vulve, on voit les seins, on voit les fesses, on voit les hanches, mais la tête et les bras et les pieds sont réduits à presque rien. La tête est recouverte d'une espèce de grille, de grillage. Certains disent d'un filet. Les bras sont tout fins, tout minces, repliés sur la poitrine, et les jambes ne portent pas d'extrémité. Il n'y a pas de pieds, elles s'arrêtent comme ça. Alors, vous voyez, par exemple, c'est la même chose dans les figures peintes. Ici, c'est ce que moi j'ai appelé la Vénus de la grotte Chauvet. Hein. C'est sur un pendant, au milieu d'ailleurs d'une des salles, de la dernière salle quand on visite la grotte, que les archéologues ont trouvé, d'ailleurs caché derrière cette stalactite, cette figuration de femme extraordinaire, qui est probablement la première figure peinte, première image peinte de femme. Hein. Donc on voit ici les jambes. Le tracé des jambes, le sexe, très large, très grand, qui est fendu ici d'un trait, donc la vulve de 4 cm de profondeur. Hein, donc c'est vraiment volontaire. Et puis qui est surmonté par une sorte de bison, qui a une patte qui est posée sur, qui apparente par-dessus la figure de la femme. Il y a d'autres animaux aussi autour. Et donc, vous voyez qu'ici, on a une sorte de scène originelle, en quelque sorte. Moi, j'ai appelé ça l'origine du monde. Hein. Vous savez, comme le tableau de Courbet. Je ne sais pas si vous connaissez ce tableau. Hein. On voit une femme dont on ne voit que le sexe, les jambes et le buste, sans voir son visage. On a un peu la même chose ici. Hein, pour dire que... on peut dire plusieurs choses là-dessus. Et peut-être le fait que les artistes ont... existe depuis 30 000 ans et qu'au fond, c'est, y a pas de hiérarchie dans la, dans la, dans la beauté ni dans l'habileté de ces artistes. Alors, il y a des images peintes, il y a des images sculptées, comme je vous l'ai dit, qu'on trouve donc depuis 40 000 ans. Et puis, il y a des images gravées, comme ces dames de Gunnersdorf, qui sont très belles. C'est toutes des séries de femmes, comme ça, dont on voit les profils. Peut-être sont-elles des danseuses. Elles sont souvent comme des espèces de processions de femmes. Il y a aussi... alors, quand on ne voit pas la femme plus ou moins entière, on voit son symbole, la vulve. Et ici, des vulves, c'est l'abbé Breuil qui a appelé ses dessins des vulves. Et effectivement, c'est une forme de stylisation, en quelque sorte, du sexe féminin qu'on retrouve pas mal dans beaucoup de grottes du Paléolithique supérieur. Et puis, il y a aussi des sculptures en rond de bosse. Hein, c'est comme celle très belle des trois grâces d'angle sur l'Anglin, qui sont plus tardives, alors, qui datent de la fin du Paléolithique supérieur. Voilà. Et voilà encore une autre de ces Vénus sculptées que vous voyez ici, la fameuse Vénus de Lespugue. Alors, on trouve ces Vénus, vous voyez, je vous en ai montré en Russie, je vous en ai montré en Autriche, hein, la Vénus de Willendorf, elle vient d'Autriche, et je vous en montre en France. Et vous voyez qu'il y a une sorte de permanence de cette figuration des femmes, avec bien sûr des changements, mais avec quand même des invariants, hein, ne serait-ce que l'opulence des formes. Et la petitesse de la tête, les bras réduits, les jambes aussi réduites. Et ce qui est très beau ici, c'est qu'en fait, elle a été cassée, cette statuette. Elle est en ivoire, elle a été peinte de pigments noirs. Et au moment des fouilles, elle a été cassée. Et on voit à l'intérieur de ce corps, on voit toute l'architecture qui a été façonnée par l'artiste. Et donc, il y a là toute une réflexion à mener, qui est très importante, sur le fait de savoir si ce sont des images réalistes, si ce sont vraiment les femmes comme elles étaient à l'époque. Souvent, on vous dit, mais est-ce qu'elles étaient vraiment comme ça? Ou si c'était, au contraire, une stylisation et une façon artistique de représenter quelque chose qui est peut-être une image de la femme, mais qui est certainement une image très construite, très symbolique. De la féminité ou d'autre chose. Et donc, je pense que cette Vénus de Lespugue, elle nous prouve de façon très, très évidente qu'on n'est pas dans l'ordre de la réalité, mais bien dans l'ordre de la construction, de l'art, hein, parce que les artistes du XXe siècle, Picasso, Matisse, etc., n'ont pas fait autre chose hein, que de déconstruire les volumes et... dans l'art cubiste, par exemple, hein, de façonner les portraits humains dans cette géométrie qu'on retrouve d'ailleurs ici. Donc vous voyez qu'il y a vraiment toute une... alors il y a bien sûr des gens pour dire qu'il s'agit effectivement de portraits de femmes, qu'il y avait des femmes obèses, et que même on peut faire une sorte de diagnostic de leur maladie, etc. Bon, moi je ne suis pas très partisan de cette chose. Il y en a d'autres qui ont dit que c'était des races, qu'il y avait des races préhistoriques qui étaient calipiges ou stéatopiges, comme dans certaines populations africaines. Et puis, il y a d'autres gens pour dire que c'est peut-être autre chose que de la réalité, que du pur réalisme. Même si l'idée de la nudité, l'idée de l'opulence des formes, semble être une idée qui plaisait quand même aux paléolithiques. Voilà. Alors... pour revenir à cette question des rôles féminins, je vais en dire quelques mots. Bon, j'ai du mal à limiter. Je ne sais pas, on a encore une petite demi-heure pour parler, 20 minutes ?
20 minutes.
Voilà. Voilà, je vais parler 20 minutes. Je ne sais pas jusqu'où j'irai, parce que je viens de finir ce livre, donc j'ai plein de choses à dire, mais je m'arrêterai quand je m'arrêterai. Voilà, et puis vous me poserez des questions si vous voulez, et puis on pourra reprendre d'autres choses que je n'aurais pas dites. Alors, on parlait des rôles féminins. Quel rôle pour les femmes? Donc, si on essaye d'identifier ce que pouvait faire cette moitié invisible de l'humanité pendant toute cette période immense des temps préhistoriques. Alors, qu'est-ce qu'elle pouvait faire? Elle pouvait, évidemment, se reproduire, ou se livrer à des activités propres à la reproduction. Évidemment, les femmes ne sont pas seules à reproduire l'espèce ou à reproduire le groupe, mais en tout cas, c'est à elles qu'il incombe de porter les enfants de façon plus visible. Deuxième point, est-ce que c'était des femmes au foyer? Est-ce qu'elles étaient sédentaires? Ou est-ce qu'au contraire, dans ces sociétés nomades, paléolithiques, est-ce qu'elles avaient des activités plutôt tournées vers l'extérieur? Est-ce qu'elles s'occupaient de chasse ou pas? Il y a toute une controverse autour de la chasse comme le privilège de l'homme. Ou est-ce qu'elles étaient plutôt spécialisées dans les activités, comme je disais tout à l'heure, autour de la cueillette et du travail des fibres? Quelles activités techniques, j'en ai parlé un petit peu, et artistiques? Et là, c'est un thème un peu nouveau, dont je suis très contente qu'il a surgi maintenant comme une sorte d'évidence, le fait que les femmes pouvaient être des artistes. Et je dois dire par expérience qu'il y a 6 ou 7 ans, j'avais présenté cette hypothèse devant une digne assemblée des spécialistes de l'art paléolithique, qui m'avait reçue très très froidement et très négativement. Et aujourd'hui, j'ai signé un livre l'autre jour, il y a une dame qui m'a dit « Mais oui, les femmes ont fait les peintures de la grotte de Lascaux. » Alors j'ai dit « Bon, on ne va peut-être pas aller jusque-là. » Enfin, c'est une idée qui aujourd'hui est acceptable, qui est recevable, alors qu'elle ne l'était pas il y a 10 ans. Donc les choses font un peu leur chemin, et il y a évidemment quelques éléments de preuve pour abonder dans le sens de cette hypothèse. Alors la reproduction, il y a énormément de choses à dire sur le rôle des femmes dans la reproduction. Alors peut-être faut-il aller à l'essentiel, et je crois que l'essentiel, pour moi en tout cas, c'est que les activités de reproduction ne sont pas purement de la nature. C'est-à-dire, on croirait que se reproduire, c'est une tâche purement biologique. Bon, c'est vrai qu'il y a du biologique dans la reproduction, il y a la rencontre de gamètes, etc. Bon. Mais en ce qui concerne l'humanité, en ce qui concerne les hommes et les femmes, la reproduction est, et je crois depuis toujours, depuis les origines de l'humanité, est prise à l'intérieur de cadres sociaux, culturels, qui font que, au fond, cet aspect biologique de la reproduction est presque impossible à reconnaître, tant la reproduction humaine est prise, encore une fois, dans cette construction du social. Et cela, Darwin déjà le disait, Darwin parlait de la sélection sexuelle, je n'ai pas le temps de développer beaucoup, mais si vous lisez son grand livre qui s'intitule « The Descent of Man », je dis en anglais parce qu'en français, on a parlé de la descendance de l'homme, aujourd'hui on parle de la filiation de l'homme, il explique que le processus évolutif humain s'explique surtout par la sélection sexuelle, par le choix, par les hommes et par les femmes, de leur partenaire sexuel qui, en se répétant, a modifié l'espèce et l'a fait se transformer. Et alors, dans son livre, il explique très bien, Darwin, que ce sont les femmes qui, au début, ont dû opérer ces choix. Comme d'ailleurs dans beaucoup d'espèces animales, c'est souvent les femmes, c'est souvent les femelles qui choisissent. Regardez chez les paons, la femelle n'est pas spécialement brillante, mais l'homme, il fait tout ce qu'il peut pour lui plaire, et parfois même, ils se battent à mort avec d'autres congénères pour arriver, je ne parle pas des paons, mais peut-être des mammifères, pour arriver à obtenir les grâces de la femelle. Et donc, dans l'espèce humaine, Darwin explique que cette sélection sexuelle est un facteur très important de transformation de l'espèce, d'évolution de notre espèce, et c'est à elle aussi qu'il faut attribuer un certain nombre de traits qui ne sont pas explicables autrement. Par exemple, qui n'ont pas de sens pour la survie, par exemple la pilosité, le fait que les hommes portent la moustache, la barbe, enfin ont la possibilité d'avoir la moustache, la barbe, que les femmes ont moins de pilosité. Et donc il y a toute une idée derrière. Derrière, il y a l'idée que c'est par la sélection sexuelle, une sélection esthétique, hein, aussi bien le fait de le goût joue un grand rôle dans la sélection sexuelle, que ces différents traits se sont façonnés. Alors ça peut être des traits physiques, mais ça peut être aussi des traits moraux, hein, le courage, la force, la tendresse, etc. Et d'ailleurs, donc Darwin explique que les femmes ont d'abord sélectionné les hommes, et puis il y a eu un renversement qui vient du fait probablement qu'elles ont toujours sélectionné les hommes les plus forts, capables de les défendre, et là-dessus les hommes ont pris le pouvoir, évidemment, puisqu'ils étaient les plus forts, et ils se sont mis, eux, à sélectionner les femmes. Bon. Et du coup, ce que Darwin explique, c'est que la beauté est aussi un élément de sélection, c'est-à-dire la beauté des femmes a été sélectionnée par les hommes, et c'est à travers cette beauté que l'espèce elle-même s'est embellie. Donc, la beauté est une des choses qu'on doit, que nous devons à cette sélection sexuelle. Donc il y a toute une réflexion très importante autour de ces formes de reproduction humaine, qui implique évidemment, je parlais tout à l'heure de goût, je parlais de parure, je parlais de beauté, etc., qui implique aussi tout un ensemble de pratiques culturelles, sociales, dans lesquelles la sélection sexuelle va être prise. Deuxième point sur lequel je ne m'étendrai pas, parce que c'est assez compliqué, mais c'est un trait qui distingue la physiologie féminine parmi la plupart des mammifères et des primates, c'est la perte des signes perceptibles de l'estrus. Bon, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, les signes visibles de l'estrus, c'est ce qu'on appelle, par exemple, chez les chimpanzés, les périodes de rut. Hein. Le fait que la femelle a, dans son cycle ovulaire, a une période de fécondité maximale qu'elle manifeste à travers des comportements, mais aussi à travers un aspect particulier de sa vulve, de ses odeurs, etc. Enfin, il y a toutes sortes de signes de l'œstrus que les hommes, que les mâles reconnaissent, et donc il y a l'approche, etc., qui se fait jusqu'au moment de la fécondité maximale, qui est le moment où le mâle dominant va copuler avec la femelle. Eh bien, dans l'humanité, comme vous savez, ça ne se passe pas du tout comme ça. Et pourquoi ? Parce que nous avons perdu, les femelles, les femmes, ont perdu les signes perceptibles de l'œstrus. Et de ce fait, comme l'ovulation n'est pas marquée particulièrement aux yeux et à l'odorat, etc., des hommes, eh bien, la sexualité est possible tout le temps, de façon permanente. De ce fait, et c'est un trait très important, hein, qui va jouer un rôle probablement dans la constitution des couples permanents, hein, le fait que plutôt que d'avoir une période d'échange sexuel, il y a une possibilité permanente de la sexualité, et qui va peut-être aussi jouer un rôle dans le fait que l'humanité a toujours probablement établit des règles, des normes, des interdits à cette sexualité. Parce que si la sexualité est possible tout le temps, n'importe où, n'importe quand, avec tous, il y a un moment où il faut apporter des cadres et des règles à ces débordements. Et ce que les ethnologues appellent les règles de parenté, hein, les interdits, comme l'interdit de l'inceste, par exemple, sont des points qui caractérisent toutes les sociétés humaines. Hein. Si vous lisez les œuvres de Lévi-Strauss, par exemple, vous verrez que Lévi-Strauss, dans les structures élémentaires de la parenté, a montré comment toutes les sociétés humaines, de celles qui nous paraissent les plus simples, les plus primitives, à celles qui sont les plus élaborées, possèdent ces règles qui, de façon extrêmement diversifiée, encadrent la sexualité et encadre les formes même de l'échange sexuel et de la parenté. Et bien cela, peut-être que nous le devons précisément à cette perte des signes de l'œstrus, hein, qui oblige justement à normer, à régler les formes d'une sexualité qui sinon serait trop envahissante. Enfin, un dernier point qui touche à la reproduction et qui est assez intéressant, il me semble, c'est que les jeunes, les enfants, dans l'espèce humaine, naissent immatures. L'enfant n'est pas capable, n'est capable de rien faire quand il naît, il est inachevé, il n'est pas encore fini. Alors, pourquoi n'est-il pas encore fini? Une des raisons invoquées, c'est le fait que le crâne étant très gros, le cerveau étant très gros, on ne peut pas attendre la croissance maximale du cerveau pour qu'il sorte du sein de sa mère, dans la mesure où l'espace est limité. Et donc l'enfant naît inachevé. Et cet inachèvement du jeune est évidemment un trait très particulier de l'humanité, qui engage toutes sortes de conséquences, hein, qui tiennent au lien de longue durée entre la mère et l'enfant, hein, qui tiennent à la longue durée de l'éducation en particulier, et qui font que le cerveau, la plasticité du cerveau de l'enfant rend possible cet apprentissage, ces progrès, non seulement pendant l'enfance, mais même tout au long de la vie. Donc il y a là un trait caractéristique de la reproduction humaine, à savoir cette reproduction d'un être immature, et il y a corrélativement un autre trait qui est très intéressant, c'est la longévité des femmes au-delà de la période de fertilité. Dans la plupart des espèces de singes par exemple, la fertilité dure jusqu'à la mort. Les singes, les chimpanzés par exemple, vivent 50 ans, ils sont fertiles jusqu'à l'âge de 50 ans. Chez la femme, la fertilité cesse, c'est la ménopause, et elle continue à vivre jusque vers 100 ans aujourd'hui. C'est l'âge maximal, normal, dirons-nous. Eh bien, que signifie cette longévité? Quel est le sens biologique, social de cette longévité des femmes au-delà de la période de fertilité? Eh bien, certains anthropologues ont fait l'hypothèse que c'est précisément en jouant le rôle de grand-mère, que les femmes ont apporté quelque chose de plus, hein, au groupe et à la possibilité d'éduquer les enfants et de parfaire ainsi la cellule familiale et de rendre plus efficace en quelque sorte la structure du groupe. Donc cette invention des grands-mères serait peut-être un des traits et peut-être une des clés, hein, du succès d'Homo sapiens, si on peut penser que cet avènement date de l'origine, enfin, disons de l'arrivée d'Homo sapiens en Europe occidentale, ou peut-être plus lointainement de l'origine de notre espèce. Donc, vous voyez qu'il y a un certain nombre de traits qui touchent à la reproduction, qui sont très intéressants. Et les femmes, évidemment, jouent un rôle crucial là-dedans, comme elles ont toujours joué un rôle crucial dans les choix liés à la reproduction. Au fond, ce sont les femmes qui, par exemple, choisissent ou non de garder un enfant qui n'est pas viable. Vous savez que dans beaucoup de sociétés traditionnelles, et en particulier les sociétés de nomades, chasseurs-cueilleurs, l'infanticide existe. Dès lors que soit il y a trop d'enfants qui naissent de façon trop rapprochée, soit un enfant ne peut pas vivre parce qu'il n'est pas très bien formé. Eh bien, c'est aux femmes, traditionnellement, qu'il importe de prendre ce genre de décision. Et donc, il y a tout un rôle des femmes au regard non seulement de la reproduction, mais aussi du soin de l'enfant, etc., qui est leur responsabilité. Alors, je vous donne quelques éléments, encore une fois, d'images paléolithiques, qui nous donnent un peu une idée de l'intérêt que les préhistoriques portaient à ces figures de femmes et à ces figures incarnant la fécondité. Voici par exemple la Vénus de Locelle, ce qu'on appelle la Dame à la corne, qui est une figure sculptée en bas-relief. C'est d'ailleurs un ensemble de 5 figures qui se trouvent dans la vallée de la Vézère, sous un abri. Elles ont été détachées. Là, cette figure, elle a été détachée. Elle se trouve aujourd'hui au musée de Bordeaux. Malheureusement, l'ensemble n'a pas été conservé. Mais on y voit une très belle figure de femme, là, qui est d'ailleurs moins caricaturale que celle que je vous ai montrée précédemment, mais qui est aussi nue, qui semble aussi enceinte. Elle a cette position de la main sur le ventre, hein, comme une femme qui est enceinte, très souvent. Et puis, elle porte à la main une corne. Alors, cette corne a fait couler beaucoup d'encre. Dans mon livre, j'étudie toutes les hypothèses. Il y en a beaucoup qui ont été apportées pour élucider cette corne. Instrument de musique, à nappe pour boire, croissant de lune, etc. Mais donc, ça a été effectivement mis en rapport avec la lune et avec les mois lunaires. Hein, puisqu'il y a 13 découpes, 13 petites incisions sur cette corne, qui pourrait faire penser à un calendrier des mois lunaires. Et quand on sait que les cycles d'ovulation féminin correspondent aux mois lunaires, on peut imaginer que peut-être les premiers calendriers ont été forgés sur cette durée des cycles féminins. Certains y ont vu aussi un calendrier obstétrical, un calendrier de grossesse, hein, dans lequel on compte les mois de grossesse. Il y a toute une interprétation de cette image autour de la question de la fécondité et de la reproduction. Et il y a d'autres images aussi qui montrent carrément la grossesse. Vous voyez par exemple cette très belle statuette incomplète de Kastionki, toujours en Russie, où l'on voit un ventre très rond, hein, avec le nombril qui est saillant, comme dans un ventre de femme qui vit sur le point d'accoucher. Et puis, on voit alors aussi ces sortes de cordes qui sont passées autour de la taille et autour des poignets. Hein. Ils sont très bien dessinés avec tous les brins et la torsion des brins et qui ont été interprétés de façon diverse. On peut y voir des bracelets, des ornements. Et certains y ont vu une méthode pour aider la femme à accoucher. Hein. Il y a dans les campagnes, paraît-il, dans les campagnes russes encore, cette méthode qui consiste à passer une corde autour de la taille de la femme et qui l'aide à pousser pour accoucher. Et donc, on voit là, ici, une sorte de mise en scène, presque, d'un accouchement, hein, une femme en train de donner la vie. Vous voyez que cet intérêt pour la grossesse, pour la fécondité, était certainement une préoccupation. Alors, est-ce que, et je terminerai peut-être avec ça pour pouvoir... pour qu'on puisse discuter, est-ce que la fertilité, la fécondité était une obsession des paléolithiques? On peut en discuter. Des peuples de nomades, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'ont pas forcément de trimballer une énorme progéniture s'ils se déplacent déjà avec de lourds fardeaux. Et souvent, les femmes portent ces fardeaux en même temps que les enfants. Et les ethnologues qui ont étudié les sociétés de chasseurs-cueilleurs actuelles, comme par exemple les peuples d'Afrique du Sud, hein, les San d'Afrique du Sud, les Bushmen, ont remarqué que les femmes, justement, avaient aussi ce savoir de l'espacement des naissances. Alors, l'espacement des naissances qui se fait en particulier par le fait qu'elles allaitent très longtemps. Hein, vous savez que l'allaitement, la lactation, produit une aménorrhée, hein, donc il n'y a pas de cycle pendant la lactation, qui fait qu'il n'y a pas non plus de naissance possible pendant toute cette durée. Donc, il y a un espacement de 4 ans en moyenne, le temps que l'enfant qui est déjà né puisse grandir, puisse marcher, etc. Donc, l'idée que les sociétés des chasseurs-cueilleurs du paléolithique supérieur voulaient à toute force multiplier les naissances, comme l'a dit souvent l'abbé Breuil ou certains interprètes de l'art paléolithique, est peut-être une idée erronée. Peut-être qu'il n'y avait pas cette urgence de la fécondité des femmes. Alors, pourquoi ces statuettes, pourquoi ces figurations? Eh bien, certains ont fait l'hypothèse qu'il pouvait s'agir non pas de susciter la fécondité par la magie, hein, mais peut-être de protéger par la magie, hein, par des amulettes, par exemple, ce moment particulièrement périlleux, dangereux, important de l'accouchement. Et donc, ces figurines de toute petite taille, je vous en ai montré une tout à l'heure, vous voyez comme elles ne sont pas grandes du tout. Hein. Ça, c'est la main de Nikolai Praslov, qui malheureusement est décédé il n'y a pas très longtemps, qui avait trouvé toute une série de figurines russes dans la vallée du Don. Et donc, vous voyez qu'elles sont toutes petites, et on peut imaginer, celles-ci aussi sont toutes petites, celles-ci ont été trouvées à Grimaldi, elles n'ont pas plus de 5 cm, et elles ont souvent un trou qui permettait de les accrocher en pendentif. Mais on peut imaginer qu'il s'agit peut-être d'amulettes portées en pendentif ou à la main pour protéger, pour que la femme puisse protéger ce moment peut-être difficile, périlleux de la grossesse et de l'accouchement. Et on peut imaginer aussi bien que les femmes elles-mêmes ont pu tailler pour elles-mêmes ces objets pour leur propre usage. Voilà, donc je vais oui, j'avais tout un chapitre sur la question de l'art, hein, j'en ai parlé un petit peu, femme artiste.
Vous avez 5 minutes encore,
oui, bah, si vous voulez, je peux dire quelques mots sur l'activité artistique, oui, des femmes, oui, hein, oui. Mais je pourrais vous montrer à la faveur de vos questions.
Oui, oui,
voilà. Alors, donc, je vous ai dit tout à l'heure que je viens de vous dire qu'il se peut que les femmes aient fabriqué pour elles-mêmes. D'ailleurs, on s'est aperçu que c'était des objets souvent faits en série. Hein. Il y a une espèce de... on en trouve parfois en assez grand nombre. Les statuettes de Grimaldi, on en a trouvé une douzaine, hein, qui sont toutes un peu pareilles, toutes dans la même matière. Et de même, il y a eu un travail qui a été fait récemment en Sibérie, à Malta, où on trouve aussi des statuettes un peu différentes, mais aussi féminines. Et les préhistoriennes qui ont étudié ces objets ont montré qu'il y avait une fabrication de série, qui était où on se passait de main en main et on faisait telle ou telle encoche, tel ou tel dessin, etc., sur la matière. Alors, la question se pose de savoir si les femmes étaient vraiment artistes. C'est une question, encore une fois, qui ne s'est pas posée pendant longtemps. Je vous ai montré l'image des Michel-Ange et des Raphaël, etc. C'était forcément les hommes, puisque ce qu'on connaît le mieux de l'art paléolithique, ce sont ces grandes fresques animalières, Lascaux, aujourd'hui la grotte Chauvet, etc. Et on a souvent dit que ça ne pouvait être qu'un art de grands chasseurs, de gens qui connaissent, qui voient les animaux dans la vie. Et les femmes ne faisaient pas la chasse, donc elles n'avaient pas de raison de figurer les animaux de cette façon. Bon, alors, il y a toute une discussion qui peut être menée sur la chasse et le fait de savoir si les femmes chassaient ou pas. Mais en tout cas, on peut aussi imaginer que les femmes voyaient les troupeaux animaux, voyaient les animaux, ne serait-ce que lorsqu'ils étaient rapportés morts pour être dépecés et mangés. En tout cas, la question de savoir qui étaient les auteurs de l'art paléolithique ne s'était pas posée. Encore une fois, quand on ne pose pas la question, on la résout par le fait que c'est les hommes qui le faisaient. Et donc, la question aujourd'hui se pose et on essaye de trouver un certain nombre de preuves, d'éléments qui permettraient de répondre à la question de savoir si les femmes ont ou non participé à l'art paléolithique, que ce soit sous la forme sculptée, gravée, dessinée, ou sur la forme peinte. Alors, en ce qui concerne la forme peinte, la démonstration s'est portée essentiellement sur l'image des mains. Vous savez qu'on trouve dans beaucoup de grottes ornées des mains, soit positives, c'est-à-dire on met la peinture sur la main et on la plaque, mais surtout négatives, comme celle-ci, où on pose la main et on met au pochoir, on met de la couleur, hein, de l'ocre ou du manganèse, etc. Ces mains, on a essayé d'étudier. Alors évidemment, ça reste approximatif parce que la peinture ne donne pas une image absolument, c'est pas un calque de la main, mais enfin, elle donne quand même une certaine image de la main. Et on a tenté de reconnaître les proportions propres aux mains masculines et aux mains féminines dans les images de mains des droits d'ornés. Et donc, cette proportion, elle est indiquée par l'indice de Manning. Hein, bon, je vous passe les détails, c'est-à-dire le rapport de la longueur entre l'index et l'annulaire. Hein. Et ce rapport de longueur est différent chez les hommes et chez les femmes, sous l'influence d'hormones hein, différentes chez l'homme et chez la femme. Bon. Alors, je vous passe le détail, il y a toute une précision qui a été apportée ici, que vous pouvez retrouver, j'ai un peu détaillé ça dans mon livre. Mais en tout cas, il y a plusieurs chercheurs qui ont essayé d'utiliser cet indice de Manning pour étudier les droits d'ornée. Et ce à quoi ils arrivent, c'est au fait que certaines de ces figurations de mains semblent de toute évidence être des mains féminines. Par exemple, ces mains qu'on trouve sur le panneau de Pechmerle et qui entourent cette fameuse frise des chevaux, qui est très belle. Alors, que signifieraient des mains de femmes autour de ce panneau ? Peut-être est-ce une signature ? Peut-être simplement, ce serait puisque ça a été fait pratiquement en même temps. L'hypothèse la plus économique serait que le panneau a été effectivement réalisé par des mains de femmes. Hein. Et il y a, par exemple, à Bornéo, alors c'est très loin de l'Europe, mais il y a un archéologue, Michael Chazine, qui a découvert plusieurs grottes à Bornéo avec des mains qui semblent, il a aussi étudié l'indice de Manning il a utilisé le logiciel mis au point pour reconnaître ces proportions, et il semble que de nombreuses mains dans ces panneaux soient des mains de femmes. Donc, on a là peut-être alors une preuve, en tout cas un indice, en tout cas une piste qui nous permettrait de prendre au sérieux l'hypothèse d'un art fait par les femmes, peut-être aussi pour les femmes. Alors, certaines archéologues féministes sont même allées jusqu'à dire que sur certains sites préhistoriques, peut-être plus récents, du Mésolithique, on pourrait distinguer plusieurs types de factures artistiques selon qu'il s'agirait d'hommes et de femmes. Par exemple, sur le site de l'Epenskivir, on trouve d'un côté ces gros blocs, on appelle les hommes poissons, hein, ces gros blocs, et puis de l'autre côté, des dessins de ce genre, qui sembleraient être plus des symboles féminins et qui paraîtraient ressortir à une facture féminine. Bon, c'est une hypothèse, peut-être un petit peu échevelée. Mais d'autres arguments, comme des arguments ethnographiques, nous montrent que les femmes, en Australie par exemple, ici on est en Australie, où l'art rupestre, l'art pariétal est encore très vivant, et les gens continuent à entretenir les peintures qui existent depuis 40 000 ans, eh bien, les femmes jouent un rôle très important dans la peinture, dans la réutilisation de ces images, et donc dans le fait de leur donner une continuité, de leur donner une vie, et de créer elles-mêmes de nouvelles formes artistiques. Donc il y a tout un ensemble d'indices, je ne dirais pas de preuves absolues, mais en tout cas de pistes qui nous permettraient de penser que les femmes ont pu jouer un rôle dans l'art paléolithique, l'art rupestre, l'art pariétal, c'est-à-dire l'art dans les grottes, et aussi dans la sculpture, qui ne paraît pas, après tout, si impensable que cela, hein, puisque si on part de l'idée que les femmes étaient plus sédentaires que les hommes, ce qui n'est pas encore tout à fait prouvé, mais enfin, pourquoi ne se serait-elle pas occupée aussi de la beauté, hein. Darwin disait bien que ce qui caractérise les femmes et ce qu'elles ont apporté à l'espèce, c'est la beauté. Voilà. Donc, je termine. Attendez. Bon, ça s'est arrêté là. Je voulais vous terminer, mais je crois que... Excusez-moi. Voilà, je suis au début. Je vais essayer d'aller jusqu'à la fin. Excusez-moi. Pour ma dernière diapositive. Bon, mais il y a un problème, il y a un bug. Celle-ci, comme je l'ai retravaillée, elle a... Attendez, je vais arriver à ma dernière diapositive, mais ce n'est pas très grave, sinon je peux vous dire ma conclusion. Sans support de... Voilà. Alors, conclusion. Voilà. Donc, je vous ai donné un certain nombre de pistes. Évidemment, ce n'est pas exhaustif, il y a encore beaucoup de choses à dire, qui viseraient à donner une place dans notre réflexion sur la préhistoire, donner une place aux femmes, et leur donner aussi une existence, leur donner aussi une histoire. Alors, comment réévaluer la place des femmes, on a vu, en critiquant ce que j'ai appelé l'androcentrisme, hein, l'androcentrisme, le machisme en quelque sorte, hein, qui consiste à ne voir que les hommes, que les hommes comme acteurs, comme créateurs, la femme étant du côté de la nature et de la passivité et de la répétition. Hein. Je pense que ce partage-là, il doit être absolument revu, corrigé et critiqué. Alors, il y a des tas de choses qu'il faut critiquer. Je ne vous ai pas parlé du matriarcat, je ne vous ai pas parlé de la grande déesse, hein, mais c'est toutes sortes de mythes qui ont été très longtemps attachés à l'image des femmes préhistoriques et qui, au fond, n'apportent pas grand-chose à notre compréhension de la réalité de leur vie. Hein. Ce sont plus des rêves, des mythes que des choses dont nous avons des preuves réelles. Alors, pour comprendre la place des femmes, eh bien, il faut les chercher. Il faut les trouver grâce aux recherches de terrain. Je vous ai parlé des fossiles, des artefacts, des œuvres artistiques. Mais aussi, je vous ai dit tout à l'heure, en posant des questions, en essayant de trouver. Hein, c'est en cherchant qu'on arrive à trouver des indices. Et aussi en s'inspirant avec prudence des modèles ethnographiques, les sociétés actuelles de chasseurs-cueilleurs et la manière dont se distribuent les tâches entre hommes et femmes. Alors, il ne s'agit pas aujourd'hui, comme c'était le cas il y a 50 ans, avec les grands féminismes américains qui cherchaient absolument à toute force à prouver que les femmes étaient dominantes dans les sociétés préhistoriques, qu'elles avaient le pouvoir sur les hommes, et qu'il s'agissait aujourd'hui de retrouver cette prééminence des femmes. Je pense qu'on a dépassé un petit peu ce féminisme-là. Mais au contraire, ce qu'il est intéressant de faire aujourd'hui, c'est de tenter de cerner au plus près l'existence des femmes, et aussi dans ces aspects qui peuvent être les plus défavorables. Il est clair que les femmes de la préhistoire n'étaient pas non plus des reines, des femmes qui dominaient les hommes. C'était des femmes qui certainement étaient dominées, qui certainement étaient l'objet de violences, qui certainement faisaient l'objet aussi de dépréciation de leurs activités, de leur travail, comme c'est le cas, malheureusement, encore aujourd'hui, dans beaucoup de nos sociétés. En tout cas, cette réévaluation de la place des femmes dans les sociétés préhistoriques est certainement, puisqu'elle a commencé à se faire au XXe siècle et plus encore dans la deuxième moitié du XXe siècle, elle est certainement en rapport avec nos propres questionnements sur nous-mêmes et avec les mutations de nos sociétés. Voilà, je vous remercie.
Donc je vais passer le micro, y a-t-il des questions ?
Aucune question.
Moi, j'ai une question. Oui. Pourquoi partir du principe que la femme était plus sédentaire que l'homme ?
Oui, alors ça...
Parce que ça, c'était un postulat...
Oui, absolument. C'est une question... sur laquelle il y a beaucoup à dire et beaucoup à réfléchir. Alors, y compris d'ailleurs dans certaines élaborations féministes très engagées, on a insisté sur le fait que le rôle, la tâche qui incombait aux femmes de poursuivre l'éducation de l'enfant au-delà de sa naissance, l'obligeait à une certaine immobilité, une certaine sédentarité. Alors, en ce qui concerne... donc, il y a eu des modèles qui ont été faits qui ont montré, par exemple, que, justement, si on partait de ce principe-là, on pouvait tout de même prêter aux femmes un certain nombre d'activités qui étaient réalisables, même dans le cadre de cette sédentarité. Hein. Des activités qui étaient tu ne demandais pas énormément de concentration, parce que quand on a un petit enfant autour de soi, on n'est pas obligé d'être, on ne peut pas être tellement concentré, qui pouvait être interrompue facilement et qui n'était pas dangereuse. Bon. Alors, il y a une série d'hypothèses qui ont été construites autour de cette hypothèse-là, si vous voulez. Mais l'hypothèse elle-même peut être critiquée, bien évidemment, hein, ne serait-ce que par le fait que les femmes dans ces sociétés de chasseurs-cueilleurs ne sont pas sédentaires. Elles cueillent d'abord, elles vont chercher des plantes, parfois elles chassent aussi, donc il y a toute une mobilité des femmes. En ce qui concerne le rapport aux enfants, comme je l'ai dit plusieurs fois, elles espacent les naissances, donc elles ne sont pas sans arrêt avec l'enfant pendu à leur mamelle. Et donc il y a une période où les femmes sont relativement attachées à l'enfant, mais ce qui n'empêche pas de porter les enfants et d'être mobile avec eux. Et il y a cette exigence d'espacer les naissances de façon à ne pas être encombrée. Voilà. De ce fait, effectivement, cette idée de la sédentarité des femmes est une hypothèse qui peut être très largement critiquée en ce qui concerne les sociétés nomades. Maintenant, vous savez aussi qu'on s'est aperçu que au cours du paléolithique, il y a des preuves d'une certaine sédentarité, justement. Et que ce soit en Russie, où je vous ai montré ces statuettes très belles de Russie, donc, où il y avait vraiment des habitations sédentaires. Et on sait qu'il y avait au moins pour une grande partie de l'année, les gens vivaient dans ces habitats sédentaires. On a retrouvé au Moyen-Orient, enfin en Israël, aussi des habitats sédentaires il y a plus de 20 000 ans. Et il semble que le paléolithique n'ait pas toujours été une période où les hommes et les femmes poursuivaient le gibier indéfiniment. Alors il y a eu d'énormes migrations qui ont été faites, mais il y a eu aussi des périodes, même du paléolithique, où il y avait une certaine sédentarité qui d'ailleurs a pu donner lieu à des techniques particulières, comme par exemple la cuisson des argiles, etc. Donc il ne faut pas voir le paléolithique comme une période tellement uniforme dans ces procédés, mais il y a dans ces procédures et dans ces événements, il y a des périodes, certaines périodes de sédentarité. Alors que les femmes, à ces moments-là, aient été plus sédentaires que les hommes, c'est une hypothèse qui n'est pas vérifiée non plus. Donc, effectivement, il faut apporter beaucoup de bémols à cette idée d'une sédentarité des femmes. Mais même si elles étaient sédentaires, ce n'est pas pour ça qu'elles étaient passives, inactives. Voilà. Donc, en raisonnant à minima, on peut dire ça. Et puis, à maxima, on peut dire aussi qu'elles n'étaient pas du tout sédentaires et elles avaient une vie au moins aussi active et extérieure que les hommes. Voilà.
Vous avez cité aussi le nom de préhistoriens du XIXe siècle. On a remarqué que c'était des hommes.
Ah oui.
Donc certainement, par rapport aux recherches qui ont été faites, le fait que, que les préhistoriens soient des hommes ont sans doute joué beaucoup par
Absolument.
Rapport...
Tout à fait, c'est une voilà. remarque tout à fait juste. C'est vrai que le préhistorien du XIXe siècle, c'est ce monsieur très, très sérieux qui classe des cailloux, qui a une grande barbe, etc. Bon, les choses ont beaucoup changé. Et c'est vrai que depuis le XXe siècle, d'abord, il y a eu des pionnières.
C'est ça, est-ce qu'il y a des femmes, en effet?
Alors, il y a eu des pionnières de la préhistoire de très grands noms. La première, d'ailleurs, sur laquelle j'ai un peu travaillé récemment, c'est Dorothy Garrod. Vous avez peut-être entendu parler, qui était la première femme professeure à Cambridge, qui est allée en Israël sur les sites du Mont Carmel, et c'est elle qui a trouvé ces fameuses, dans les grottes du Mont Carmel, toutes sortes de fossiles néandertaliens, homo sapiens, qui aujourd'hui font beaucoup parler d'eux, parce que c'est là qu'on pense que la rencontre entre Néandertal et sapiens a eu lieu, hein, et aussi des sites plus récents, hein, ce qu'on appelle là-bas le natoufien, c'est-à-dire tout à fait le début du néolithique. Et Dorothy Garrod a fait un travail absolument très, très important dans les années 30 déjà. Voilà. Alors, elle était féministe à sa façon, au sens où, d'abord, elle avait autour d'elle que des femmes. Et elle recrutait donc des femmes aussi bien des universitaires que des femmes locales des enfin des Palestiniennes qui venaient avec elles pour fouiller, parce qu'il y a tout un travail évidemment de manutention, de travail de concret qu'elles pouvaient faire. Et même l'une d'entre elles est celle qui a trouvé un des crânes les plus importants, hein, un des crânes néandertaliens, dans une des grottes du Mont Carmel. Donc Dorothy Garrott est une personne très, très attachante et très, très intéressante. Et puis, toute cette ouverture féministe des années 1950-60, elle s'est faite aux États-Unis, dans un milieu féminin tout à fait intéressant, qui est celui de l'école de Chicago. Alors, à Chicago, il y avait un grand professeur qui s'appelait Washburn, Sherwood Washburn, qui avait développé avec certains de ses collègues la fameuse thèse de l'homme chasseur. Alors, on est au lendemain de la guerre, hein. On veut éliminer le racisme, on veut plus penser en termes de race, de différence des populations humaines, on veut penser en termes d'unité. Alors ce qu'ils ont trouvé pour montrer l'unité de l'humanité, c'est l'idée que ce qui fonde le progrès de l'intelligence humaine et de l'espèce humaine, c'est la chasse. C'est le fait que, en poursuivant le gibier, d'abord, il faut fabriquer des outils pour le tuer et pour le dépecer. Il faut faire usage d'intelligence et de ruse pour le traquer. Il faut savoir s'associer aux autres pour arriver à l'attraper. Et puis ensuite, il faut le partager, il faut partager le butin, etc. Et tout ça, évidemment, sont des activités masculines, l'homme chasseur. Voilà. Et donc, ce modèle avait été... inventé et vraiment diffusé à partir de l'école de Chicago dans toute la préhistoire de l'époque. Et il y avait toutes les élèves de Sherwood Washburn, qui étaient donc des femmes, toute une génération de femmes, qui ont dit, mais c'est pas possible, c'est pas du tout... pourquoi les hommes seraient-ils les artisans de l'évolution humaine et pas les femmes? Et donc se sont développées à ce moment-là toutes sortes de courants féministes qui ont pris en main cette idée qu'il fallait réévaluer la préhistoire des femmes, qu'il fallait redonner un rôle aux femmes de la préhistoire, et que d'ailleurs c'est elles qui avaient façonné le devenir de notre espèce, un peu comme disait Darwin, hein, les femmes ont choisi les hommes, etc. Et plus encore, ces périodes anciennes de la préhistoire étaient des périodes matriarcales, des périodes de triomphe de la femme, d'ailleurs les statuettes qui montrent qu'elles étaient des déesses, etc. Et donc il y a eu une sorte d'explosion de ces féminismes militants américains, vous en avez certainement entendu parler, dans les années 60-70, qui ont amené vraiment des thèses très, très fortes et presque un peu caricaturales. Hein. Et alors du coup, il y a eu évidemment un retour de bâton, hein, il y a eu de nouveaux modèles qui ont été faits pour contrer ces hypothèses un peu échevelées. Et puis, il y a toute une histoire de ces féminismes. Alors ce qui est très intéressant, c'est que le féminisme américain cherche à se fonder dans la science. Il cherche des raisons. En France, ce n'est pas du tout le cas. Simone de Beauvoir a écrit quelques pages sur la préhistoire, mais sans du tout chercher à montrer que les femmes étaient triomphales. Au contraire, elle les montre complètement asservies, complètement aliénées. Elle dit que ça n'a rien changé depuis, on en est toujours là. Et donc, ces femmes sont devenues des préhistoriennes, sont devenues Jane Goodall, par exemple, des éthologistes, sont devenues des sociologues, enfin, des gens qui ont vraiment œuvré à réévaluer la cause des femmes et à montrer, à mettre en évidence l'importance des femmes aux périodes préhistoriques. Alors, dans les années 90, on assiste à une sorte de remaniement de ces mouvements-là, c'est une nouvelle génération. L'introduction de la notion de genre, hein, qui apporte de nouvelles perspectives théoriques dans ce type d'enquête. Et en particulier, le fait qu'il ne s'agit plus de montrer que les femmes sont dominantes, mais il s'agit de montrer comment les sociétés construisent la différence des sexes et les relations entre les sexes. Voilà. Et c'est là les perspectives qui ont été ouvertes dans les années 90 et qui continuent aujourd'hui à fructifier de cette façon et dont j'essaye de rendre compte. Voilà. Donc, et il y a effectivement des préhistoriennes. Maintenant, c'est un métier qui est assez où les femmes ont trouvé une place un peu plus importante. En France, on a de très bonnes. Alors, en France, on a de très bonnes préhistoriennes, mais qui n'ont jamais voulu justement entrer dans cette dans ce militantisme. Et je sais que moi, j'ai pu écrire le livre que j'ai écrit en 2003 parce que je suis pas préhistorienne de profession, je suis historienne des sciences. Hein. Mais j'ai d'ailleurs mes collègues préhistoriennes m'ont dit qu'elles étaient tout à fait ravies que je l'ai fait, mais elles l'auraient pas fait elles-mêmes. Parce que la préhistoire en France est très positiviste. C'est-à-dire qu'on trouve des cailloux, on trouve des crânes, des machins, on les étudie, on les classe, on fait des statistiques, on les décrit, enfin on fait tout un tas de choses très très positives, mais on ne cherche pas des modèles d'interprétation comme font les Américains. Hein? Et ça, les Américains sont très... Bon, d'abord, ils aiment bien... Voilà, ils aiment bien faire des modèles. Et en plus, alors peut-être qu'une des raisons de cette différence, si on veut être un peu positif, c'est qu'en France, on a énormément de matériel. Hein, on a des sites archéologiques extraordinaires, que ce soit pour les outils, que ce soit pour l'art, que ce soit pour tous les éléments qu'on peut trouver d'études de la préhistoire, alors qu'en Amérique, ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Pour le paléolithique, ils ont les Clovis, les paléo-indiens, ce qui est franchement rien. Et donc, ils viennent en Europe, évidemment, ils étudient le matériel que nous possédons, et ils font des modèles. Donc, ils font des modèles qui utilisent les recherches factuelles qui ont été très bien faites en France. Mais il y a une sorte de frilosité un peu des féministes françaises et des archéologues françaises à développer ce genre de thèse, mais il commence à y avoir, j'étais dans le jury de plusieurs thèses qui commencent à développer ces aspects, une thèse en particulier récemment soutenue alors sur les périodes un peu finales de la préhistoire, donc de l'âge du bronze et l'âge du fer, hein, où on trouve des sépultures princières de femmes. Hein, la dame de Vix, par exemple, près de Dijon, hein, où on voit une femme sur un carrosse avec toutes sortes de parures en or extraordinaires, donc qui prouve que les femmes avaient un rôle important. Et donc, comment penser ce rôle des femmes? Est-ce que c'est permanent? Est-ce que c'est seulement dans certains groupes, etc.? Donc, il y a toute une réflexion qui commence à être menée sur ces questions, avec des jurys d'hommes, de femmes, qui donc entérinent un peu ce genre de recherche aujourd'hui. Donc, les choses ont bien avancé, il me semble. Oui?
Est-ce que des hypothèses ou... où la femme ne serait pas systématiquement dominée dans la préhistoire, peuvent voir le jour, enfin, dans le sens où, est-ce qu'on peut imaginer une sorte d'équilibre face à un monde hostile et qui devait se mettre en place nécessairement, plus qu'une situation de domination qui aurait été contre-productive?
Oui, alors, voilà. Effectivement, bon, c'est une question très intéressante que celle de la domination masculine, hein. C'est une question qui intéresse encore beaucoup aujourd'hui les anthropologues. Par exemple, si vous voulez, Françoise Héritier, même Simone de Beauvoir, bon, elle n'est pas anthropologue, mais Françoise Héritier a écrit dans son livre Masculin-Féminin que, au fond, la domination masculine était permanente. Elle était un des piliers des sociétés humaines. Hein, que son maître Lévi-Strauss avait pensé l'interdit de l'inceste comme un pilier, mais la domination masculine l'est aussi. Simplement, les sociétés modalisent différemment cette domination. Donc, chaque société construit cette domination d'une façon ou d'une autre, à travers sa culture, ses usages, etc. Et alors, elle a écrit ensuite, elle a été très critiquée pour ça, pour cette espèce de fatalisme, au fond, de la domination. Alors, elle a écrit un deuxième livre où elle dit qu'au fond, aujourd'hui, on est dans une période où peut-être justement parce que la femme sort de cette aliénation qui consiste à se reproduire sans l'avoir voulu, à être esclave de l'homme dans le fait de la reproduction, on arrive à un moment où peut-être les femmes peuvent se saisir de leur propre... intérêts et refuser cette domination et arriver à un équilibre. Alors, ça, c'est une partie de la question. Une autre partie, c'est tout ce qui s'est pensé et dit sur le paléolithique, justement, sur ces sociétés de chasseurs-cueilleurs, qui sont traditionnellement des sociétés beaucoup plus égalitaires que les sociétés plus sédentaires. Et donc, on a souvent pensé qu'il s'agissait d'une sorte de moment, et il y a des modèles pour ça, il y a des gens qui ont essayé de le prouver, où effectivement, par le fait de ce besoin de collaborer pour la subsistance, de diviser le travail, etc., hommes et femmes n'avaient pas vraiment de rapport hiérarchique entre eux. Alors ça, c'est une hypothèse qui a été pas mal développée et qui se trouve quand même nuancée et contredite par certains travaux d'ethno-archéologie aujourd'hui. Par exemple, j'ai des collègues espagnols qui font un travail tout à fait passionnant en Terre de Feu, qui ont travaillé sur les Yamanas de Terre de Feu, qui sont des populations subactuelles qui ont disparu très récemment, mais dont on a à la fois des restes archéologiques et des restes ethnographiques, enfin des témoignages ethnographiques, donc on peut comparer les deux. Et ils montrent très finement qu'effectivement, on ne voit pas dans les restes archéologiques de traces de domination, de traces de rôles différents, mais dans les témoignages ethnographiques, par exemple, dans certains comportements, dans certaines formes de nomination, de nommer les choses, on voit très clairement qu'il y a des hiérarchies entre hommes et femmes. Et que très subtilement, les femmes se trouvent dévaluées, déconsidérées, même si elles apportent matériellement autant que les hommes à la subsistance des groupes, symboliquement, elles peuvent se trouver déconsidérées. Par exemple, alors il cite l'exemple de le fait que dans ces sociétés, une grande partie des protéines de la nourriture vient des coquillages. Alors, il y a de la chasse. Bon, on va chasser le gros gibier. Et ça, c'est en général le travail des hommes. Et les femmes vont plus ramasser les coquillages. Et elles apportent une très grande partie de la nourriture du groupe. Et alors, on appelle leur activité la cueillette. Et c'est un mot dévalorisé. C'est pour établir une hiérarchie entre le travail valorisé des hommes, donc ils vont chercher les gros animaux, etc., et le travail plus modeste des femmes qui se livrent à cette cueillette des coquillages. Bon, alors, je pense que... Et alors, si vous vous intéressez à la question, vous pourriez lire le livre de Maurice Godelier. Je ne sais pas si vous avez...
Il est venu chez nous.
Il est venu, oui. Il a... Maurice Godelier, qui a écrit un très très beau livre qui s'appelle L'invention des grands hommes. Je ne sais pas s'il vous a parlé des sociétés Barouya. Et il montre très finement, alors ils sont pas tout à fait des chasseurs-cueilleurs parce qu'ils élèvent des cochons, enfin ils sont entre les chasseurs-cueilleurs et les populations un peu plus sédentaires. Et il montre très finement comment, même si matériellement, dans les activités de subsistance, il y a une égalité entre les hommes et les femmes, il y a une hiérarchie très évidente dans les comportements, dans les symboles, y compris dans le fait de, alors ce qui est très extraordinaire, de nier même la participation des femmes à la reproduction chez les Barouya. Alors c'est une affaire très incroyable, mais il s'arrange pour dire que tout passe non pas par le ventre de la femme, ça, mais par le sperme des hommes. Et c'est par là qu'il y a une circulation de la force, d'ailleurs entre les jeunes gens et les petits garçons. Enfin, il y a toute une des pratiques homosexuelles, etc. Enfin, c'est très 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 passionnant. Et au fond, le but de tout ça, enfin l'objectif, je sais pas si c'est l'objectif avoué, mais en tout cas la réalité de tout ça, c'est de faire en sorte que les femmes se trouvent déconsidérées et dominées, même si en apparence, si on regarde que les traces matérielles, elles sont au même plan. Oui. Donc symboliquement, il me semble que la violence symbolique, la déconsidération, la dévalorisation symbolique pouvait peut-être exister aussi dans cette société. On n'a pas de traces de ça. Ce qu'on sait aussi, c'est que les femmes avaient probablement une place importante. Toutes ces figures féminines, toutes ces statuettes, quel que soit le sens qu'on leur donne, représente quand même une image de la féminité qui semblait importante pour ces populations.
Malheureusement être obligé d'arrêter là, vous avez un train à prendre.
Voilà. Oui.
Ça fait partie des impératifs, on revient à la réalité.
De vous voir ici.
Merci beaucoup, Madame Cohen. C'était passionnant. Merci.